Le thème de la table ronde de cet après-midi est philosophie politique et sciences sociales. Et nous ne devons pas traîner parce que nous avons une après-midi chargée. Nous avons quatre interventions distribuées en deux périodes coupées par une pause dite café. Donc nous allons d'abord écouter Perrine Simon-Naoun, qui est directrice de recherche au CNRS et membre du Centre d'études, et d'études sociologiques et politiques Raymond Aron, et puis Francesco Calegaro, qui est postdoctorant à l'École des hautes études en sciences sociales, notamment membre du LIER et de TEPSIS. Et puis nous écouterons ensuite, je les présenterai plus longuement si jamais il en était besoin, à partir de 17h et peut-être avant, Daniel Tanguay et Vincent Descombes. Alors pour le moment, nous avons donc deux interventions. Chacune, et mes orateurs s'y sont engagés, vont respecter la limite des 30 minutes, de telle manière que nous aurons 30 minutes pour discuter, et puis ensuite nous ferons une pause. Donc nous allons d'abord écouter Perrine Simon-Naoum. Le thème de sa communication est, si l'intitulé est bien fidèle, c'est « L'homme au risque de l'histoire, la philosophie pratique de Pierre Manon ». Toi, Perrine.
Merci beaucoup. Alors, je dois dire que quand Jean-Vincent et Giulio m'ont proposé de participer à ce colloque en me confiant le thème de l'histoire dans l'œuvre de Pierre Manon, j'ai été quelque peu perplexe. Parce que s'interroger sur la place que tient l'histoire dans l'œuvre de Pierre me paraît à la fois aujourd'hui risqué et d'une certaine façon presque incongru. Son travail de recherche, engagé comme une enquête généalogique sur le sentiment de modernité, la différence dont il est porteur, au point que dans un article paru dans Le Débat en 1992, Pierre Manon devait se défendre de tout historicisme, se déploie, me semble-t-il, désormais dans une perspective différente. Le curseur s'est déplacé et la dynamique, pour reprendre un mot qu'il affectionne, dynamique qui tissait entre eux donc les différents ouvrages de l'historien physicien, comme il aime à se définir, n'occupe plus donc un rôle central. C'est peut-être même contre l'histoire, et pas seulement, je dirais, l'histoire entendue au sens de l'historicisme, que se déploie sa réflexion actuelle. Aussi, le lieu de l'histoire désigne-t-il davantage qu'une discipline ou une approche la position singulière qui est la sienne dans le paysage de la philosophie politique, celle d'une démarche qui se veut non pas une philosophie morale ou politique, au sens où l'entendait Léo Strauss, mais une philosophie pratique, et qui, comme telle, se trouve sans cesse remise sur le métier. J'essaierai donc de montrer comment l'histoire se veut chez Pierre Manon d'abord une histoire des formes politiques, pour voir dans un second moment comment de cette histoire des formes politiques on passe à une herméneutique, née du dialogue avec les auteurs du passé, et comprendre enfin dans un dernier temps comment ce mouvement opère à son tour une synthèse historique dans l'actualisation d'une dimension religieuse. Une histoire des formes politiques. L'histoire chez Pierre Manon, et on l'a déjà dit ce matin, je crois, ne s'impose jamais comme une nécessité. Et il faut, pour le comprendre, repartir de l'expérience humaine qui est au centre de son questionnement. Celle-ci est en effet définie en rupture, on l'a dit, avec le sens immédiatement historique qui caractérise l'individu moderne et qui ne nous dit rien, à ses yeux, de sa nature profonde. C'est donc par-delà l'histoire qu'il faut aller si nous voulons retrouver le sens de cette nature humaine. L'enquête généalogique dont se réclame Pierre Manon ne renvoie donc ni au déploiement d'une chronologie politique, ni à un type de construction reprenant à son compte les grandes césures d'une histoire intellectuelle. Est-il besoin de rappeler que chez lui, la rupture de la Révolution française se trouve en quelque sorte aussitôt relativisée par la mise en place d'une science politique qui chevauche l'événement qu'elle prépare, accompagne et dont elle analyse les conséquences jusqu'au milieu du XIXe siècle de Machiavel et Hobbes à Tocqueville. Pas plus qu'on trouve donc des passages obligés dans le récit historique qu'il nous livre, il y a un sens de l'histoire. Contre l'idée de progrès menant l'histoire, progrès qui est à la base du projet démocratique et qui établirait celui-ci comme le stade ultime du développement politique dans une vision téléologique, Pierre Manant élabore un nouveau tissage de l'universel et du particulier à partir du religieux. Alors, pour comprendre cet usage de l'histoire chez Pierre Manant, une première démarche intuitive s'impose, me semble-t-il, qui conduit d'abord à s'interroger sur la nature des périodisations à l'aide desquelles il travaille, et à repartir pour cela de ce que lui-même fixe comme son point de départ, donc de cette différence des modernes, comme il la nomme. Par différence, ce n'est ni à un événement, ni à une époque qu'il se réfère, mais bien au sentiment, au rapport qui s'instaure entre l'homme et le monde, fondant ainsi une phénoménologie de la modernité. Tocqueville est ici, depuis le groupe de lecture constitué autour de François Furet à l'EHESS à la fin des années 1970, le médiateur le plus avisé. À travers le fonctionnement politique des démocraties américaines et françaises, ce que repère l'auteur de La démocratie en Amérique, c'est la métamorphose que fait subir le régime démocratique aux hommes vivant sous ses lois. Devenus des hommes démocratiques, ceci révèle du même coup la nature de la démocratie qu'on ne saurait réduire ni au fonctionnement de ses institutions, ni à l'état social qui la caractérise, à savoir l'égalité des conditions. Bouleversant la nature des relations entre citoyens, elle transforme non seulement la manière dont ils se gouvernent, mais leur essence même. Doit-on comprendre alors que Pierre Manant se reconnaît dans une approche politique inspirée de la phénoménologie ? Tel n'est pas le cas. Si la conclusion du Tocqueville et la nature de la démocratie, publiée donc en 1982, met en garde contre les excès de l'homme démocratique d'un point de vue politique, le livre dénonce de la même façon, me semble-t-il, sur le plan philosophique, les prétentions de l'historien à interpréter les évolutions politiques à l'aide d'un schéma importé de l'extérieur. Ne se rangeant pas aux côtés des historiens, Pierre Manant ne se reconnaît pas davantage du côté des philosophes politiques. Il y a dans ce refus d'adopter un point de vue systématique l'idée qu'un changement de paradigme ouvrirait obligatoirement une nouvelle étape de l'histoire humaine, à quoi il oppose le sentiment que les évolutions s'affirment de façon beaucoup plus progressive, mais également la compréhension de l'histoire comme le lieu où s'expriment les traits d'une anthropologie séculaire. Si la périodisation ne se décline ni à la manière d'une histoire politique, ni selon les étapes d'une histoire des idées, c'est en réalité qu'elle se fixe sur des notions qui, au fur et à mesure des ouvrages, jouent, me semble-t-il, le rôle de quasi-transcendantaux à la manière de ceux définis par Reinhard Koselleck. C'est en effet autour de notions comme celles de cité, d'empire ou de nation, ces formes, comme les appelle Pierre Manant, dont on a parlé ce matin, et des sentiments qu'elles convoquent, que s'organise l'aventure politique humaine. Dans le cas du kantien Koselleck, c'est le temps, plus encore que l'espace, qui constitue la catégorie philosophique nodale. L'horizon contrefactuel sur lequel se déploie son histoire de la modernité oscille ainsi, vous le savez, entre un passé et un horizon d'attente, passé au tamis de l'espérance révolutionnaire. Pierre Manant n'est pas kantien, il l'a dit à plusieurs reprises. C'est donc du côté de l'expérience politique, d'un agir humain, qu'il va chercher la constitution de ses formes et la manière dont celles-ci structurent notre champ d'expérience dans une double dimension théorique et pratique à la fois. Depuis la cité de l'homme, où celles-ci apparaissent, me semble-t-il, pour la première fois dans leur caractère heuristique, jusqu'aux métamorphoses de la cité qui les place au centre de la dynamique historique, les formes politiques qui président aux destinées de l'histoire investissent donc progressivement l'horizon historique de Pierre Manant. S'il n'existe pas un modèle historique unique qui rendrait compte du développement de ces formes politiques, c'est parce que de la science politique antique à la science politique moderne, quelque chose s'est perdu, que la raison politique contemporaine est impuissante à restituer. L'objet historique émerge alors comme l'écart qui sépare la vision de l'homme antique de sa vision moderne. Seule la science politique antique nous permet, selon Pierre Manant, de renouer avec la question essentielle de la nature de l'homme en surmontant la formulation moderne de l'individualisme. Il s'agit, vous savez, de retrouver les principes qui, dans l'Antiquité, façonnent à la fois la représentation de l'homme et celle de la chose commune. Ces principes qui ont leur siège dans l'âme, dans ce qui constitue les qualités ou les défauts du caractère humain. Ce retour dans le temps à la science politique grecque et à son expérience de la cité ne s'effectue pas sur le mode d'une causalité historique, une fois de plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'identifier ici un faisceau de causes, mais en réalité de reconstituer, me semble-t-il, une ou des expériences plurielles. Ce sont donc des motifs psychologiques et qui sont étudiés dans leurs expressions pratiques et en premier lieu, je dirais, l'usage qu'en font les philosophes, que cherche à repérer Pierre Manant. Dès lors, régimes politiques, anciens ou modernes, ne sont jamais définis abstraitement, mais prennent racine dans les dispositions psychologiques de ceux qui les régissent. Le vocabulaire de Pierre Manant n'est pas un vocabulaire de l'abstrait. Il s'incarne puissamment. Il convoque l'un, le petit nombre, la multitude, la force ou la faiblesse, l'égoïsme ou l'amour, et ne dédaigne pas même d'être politiquement incorrect, invoquant les riches et les pauvres. Conjuguées au singulier ou au pluriel, les passions deviennent ce principe actif qui détermine, en même temps que les formes politiques, la manière dont le sujet s'inscrit dans le collectif. Or, d'une époque à l'autre, ces passions ne cessent pas d'agir. C'est l'interprétation donnée à leur équilibre qui se modifie. L'histoire des formes politiques ne s'identifie pas pour autant à une dynamique des humeurs. C'est que les formes politiques, telles que les définit Pierre Manant, ne se réduisent pas au tempérament des individus. Elles prennent également en compte leurs représentations et leurs aspirations. Entre ici en ligne de compte la manière dont chaque penseur politique accorde son plaidoyer en faveur du régime qui a sa préférence à la représentation qu'il se fait de l'homme. La science politique ne se contente pas d'enregistrer les données d'un état politique. Elle est aussi et surtout, chez un Machiavel, par exemple, performative. De même que l'âme ne se suffit jamais à elle-même, elle fait signe vers une représentation du monde qui, aussi pessimiste, aussi éloignée du projet démocratique et de son optimisme soit-elle, s'inscrit dans une dynamique qui la rattache à celles qui l'ont précédée. C'est donc, et on l'a déjà vu ce matin, dans l'ordre du dialogue d'un philosophe à l'autre, que se révèle, me semble-t-il, la dynamique de la forme politique et son fondement historique. Comment alors définir ce dialogue ? À partir d'un inventaire des principaux traits de l'âme, chacun introduit de nouvelles possibilités offertes à celle-ci de s'épanouir. Il reviendra à la tyrannie, au régime représentatif ou à la démocratie, de solliciter, de combiner chacune à sa façon ces nouvelles régions de l'âme. Ce qui change, c'est l'ampleur des médiations introduites entre gouvernants et gouvernés et la force des déterminations qu'elles imposent. S'il n'existe aux yeux de Pierre Manant aucune nécessité à l'enchaînement des systèmes philosophiques entre eux, il n'y en a donc pas davantage dans la succession des formes politiques. Ainsi, l'Empire ne découle-t-il pas directement de l'épuisement du modèle de la cité, pas plus que l'État-nation ne lui succède dans une logique qui serait historique et institutionnelle à la fois. Que l'histoire ne soit pas constituée donc de cette succession chronologique des formes, dans la mesure où l'émergence de l'une ne signale pas la disparition de la précédente, c'est ce dont achève de nous convaincre le moment cicéronien, moment d'indétermination par excellence que Pierre Manant repère dans la Rome impériale et qui se poursuit jusqu'à l'émergence de l'État-nation, traversant un long Moyen-Âge. C'est au cœur de ce moment cicéronien, expression d'un désordre institutionnel, que Pierre Manant repère la force qui conduit le développement occidental à travers les formes politiques. Le mouvement, un mouvement inauguré par Rome et que les modernes reprendront en l'inversant. L'histoire rejoint ici la physique dans un mouvement corrupteur auquel rien n'échappe, selon Machiavel, imposant la réalité des choses humaines face à l'idéal. L'histoire, selon Pierre Manant, trouve ici son principe explicatif premier. L'histoire est un mouvement, une dynamique, qui ne propose aucun but, à la manière d'une spirale qui, unissant le point le plus haut à son point le plus bas, les rendrait solidaires l'un de l'autre. Arrivé à ce point, l'analyse historique de Pierre Manant s'enrichit d'un troisième pôle qu'il place en regard de l'histoire et de la nature. Il s'agit du religieux. Là encore, on pourrait rapprocher sa vision historique de celle de grands penseurs du XIXe siècle. Benjamin Constant ou Ernest Renan, qui, définissant la nature humaine par la persistance du sentiment religieux, aboutirent à tracer une histoire de l'esprit humain. La dimension religieuse fait en effet droit à la nature humaine, mais aussi aux formes dans lesquelles elle s'incarne, qu'elles soient rituelles ou institutionnelles, permettant de rendre compte aux côtés du progrès et par-delà toute périodisation de l'expression d'aspirations spirituelles. La dimension religieuse restitue ainsi sa place à la part de l'homme dans l'ontologie des sociétés contemporaines, et c'est elle qui va ouvrir, donc au second temps de cet exposé, sur la possibilité d'une philosophie pratique. Si l'histoire de Pierre Manant, donc, récuse, j'espère vous en avoir convaincu, récuse toute direction, elle est néanmoins dynamique. Et ce paradoxe trouve son explication dans l'idée selon laquelle la démarche historique de Pierre Manant s'apparente en réalité à une herméneutique. C'est en effet l'approche herméneutique qui développe l'histoire des formes politiques comme un horizon contrefactuel que Pierre Manant oppose à une perspective historiciste. D'un auteur à l'autre, d'un texte à l'autre, ce qui retient l'interprète est moins le principe d'un rapport dialogique, me semble-t-il, d'un débat qu'il engagerait avec chacun des auteurs, que finalement la manière dont les auteurs se sont lus les uns les autres, construisant des constellations de sens qui traversent les époques. On sait que Pierre Manant mit ses pas dans ceux de Léo Strauss, reprenant à son compte le principe d'ésotérisme de l'interprétation des œuvres. Il me semble qu'en réalité, il va au-delà de la démarche de Strauss, la dépassant dans une double direction, en lui conférant un autre sens philosophique. Ce qui explique aussi qu'il refuse de suivre Strauss dans l'élitisme philosophique de celui-ci. D'une part, ce qui intéresse Pierre Manant n'est pas seulement la manière dont les œuvres des philosophes sont reçues par le public et l'ésotérisme qui jouerait comme un voile posé, opposé à une compréhension immédiate, mais je l'ai dit, la manière dont les auteurs se lisent et se répondent. D'autre part, parce que ce qui se donne à lire dans leurs œuvres, c'est la construction d'une question commune, au-delà des cadres habituels à l'aide desquels on a coutume d'organiser l'histoire des idées. La nature de l'homme, puisque telle est la question centrale, ne peut se dire ni selon les critères de circulation-réception, qui seraient ceux d'une histoire des mentalités, ni en termes de génération, comme on le faisait parfois dans les années 1980, et pas davantage, comme certains le font aujourd'hui, en termes de moments ou de problèmes. L'effet théorique est ici parallèle à celui développé dans le domaine de la philosophie politique. Refusant d'emprunter à des modèles interprétatifs extérieurs ou de se reconnaître dans des techniques de lecture, Pierre Manant forge à ses propres fins les outils interprétatifs qu'il met ensuite en œuvre dans son travail. Aristote, Machiavel, Montaigne, Rousseau, Tocqueville, tous ces auteurs avec lesquels il discute depuis maintenant de nombreuses années, ne figurent pas dans ce travail comme ce qui serait des réservoirs d'exemples, comme les créateurs d'une matière première qu'il s'agirait ensuite d'étudier, d'imiter ou de critiquer. C'est le dialogue même que le philosophe entretient avec eux qui est, me semble-t-il, l'instrument d'interprétation historique. Cette herméneutique introduit dans la pensée un mouvement inédit, mouvement dont la nature s'oppose à la dynamique que mettait en place le triangle Hobbes-Rousseau-Tocqueville et qui liait, je cite, la légitimité de l'obligation politique au consentement des obligés. L'histoire intellectuelle, celle du libéralisme, par exemple, dont Pierre Manant retraçait les étapes, on l'a dit dans son cours familier, dans son histoire du libéralisme, cède la place à un commerce plus intime avec les œuvres et ce qu'il nous révèle des passions individuelles. Sans doute, dans ce passage, le cours familier de philosophie politique paru en 2001 et dans lequel l'adjectif « familier » résonne étrangement à nos oreilles, constitue-t-il une étape essentielle ? Dans la communauté de discussion qu'il établit avec les auteurs du passé, Pierre Manant reprend en effet littéralement les termes de leur question. Il ne s'agit plus de mettre en contexte cette question, mais de considérer que, de ces auteurs à nous-mêmes, si les modalités changent, l'enjeu demeure. Lorsqu'ils discutent, par exemple, avec Vico, des modifications que fit subir à la notion de bien commun et à la nature du civisme le passage de la monarchie familiale à une première monarchie politique. On ne sera donc pas surpris de trouver, au détour des pages, des formules du type, je cite, « On pourra résumer l'objection que j'adresse à Rousseau de la manière suivante ». Et c'est peut-être dans son tout dernier ouvrage, dont je n'aurai pas le temps de parler ici, « Le Montaigne », destiné à un plus large public, que l'aspect dialogique de l'entreprise historique de Pierre Manant est le plus explicite. En ce sens, la comparaison avec l'approche que Raymond Aron propose de ces mêmes auteurs, notamment dans les grandes étapes de la pensée sociologique, me paraît éclairante. Il existe entre la lecture aronienne et celle que met en œuvre Pierre Manant une différence majeure, et c'est encore une fois sur le plan de la conduite pratique induite par l'interprétation que je la situerai. Lorsqu'Aron lit Thucydide, lorsqu'il discute avec Marx ou avec Weber, en fait, il s'agit moins pour lui d'écouter leurs conseils que d'en tirer une leçon. Je m'explique. Ce qu'Aron cherche chez les anciens ou chez les plus modernes, c'est la manière dont, dans une situation donnée, ceux-ci ont lu l'histoire de leur époque. Le dialogue que Pierre Manant entretient avec les auteurs qui lui sont chers tient davantage, à mon sens, de l'amitié antique. Il est de plein pied avec eux. Dès lors, il ne s'agit plus de contextualiser une pensée ou de la retraduire en termes contemporains, mais de s'en inspirer, de discuter sur un pied d'égalité. Et c'est seulement ainsi que l'action humaine trouve, à ses yeux, une légitimité débouchant sur l'action politique. Car encore une fois, la légitimité dont elle se réclame ne peut se contenter du plan de l'universel, ni même de l'horizon régulateur de la raison qu'évoquait le kantien Aron. Ce que Manant recherche dans sa lecture des anciens, c'est moins la pensée que la manière dont le caractère de l'homme s'est exprimé au travers de sa plume. Seul ce dialogue permet à ses yeux de reconquérir la profondeur de la nature humaine. Il y a donc davantage que la convocation de l'histoire dans sa profondeur. Il y a l'idée que l'expression de la reconnaissance qui nous lie aux anciens, de cette expression naîtra une reconnaissance des contemporains et celle de nous-mêmes en premier lieu. Alors, est-ce que le cercle herméneutique est ici refermé ? Pas complètement, car il faut enfin montrer dans un troisième temps qui sera très succinct comment, d'une histoire des formes politiques, nous sommes passés à un mouvement en quelque sorte spirituel, né du dialogue avec les auteurs du passé, pour comprendre comment ce mouvement opère à son tour une synthèse historique dans l'actualisation d'une dimension religieuse. Il nous faut saisir l'expression de la philosophie pratique de Pierre Manant, à laquelle s'identifie sa compréhension de l'histoire et qui en définit, me semble-t-il, la singularité. C'est en effet sur l'action politique que se conclut le parcours historique de Pierre Manant. On se souvient de la phrase sur laquelle s'ouvre la conclusion du Tocqueville et la nature de la démocratie, on l'a citée ce matin. Il est difficile d'être l'ami de la démocratie, il est nécessaire d'être l'ami de la démocratie, que Pierre Manant tire de sa lecture de Tocqueville. Mais il faut poursuivre la lecture de ce paragraphe qui établit le lien entre démocratie et liberté politique pour comprendre comment c'est la liberté politique elle-même qui donne accès à un numanum commune, substrat que les hommes ont en partage. Substrat dans lequel, explique Pierre Manant, les hommes oublient la convention et surmonte le vertige de l'indépendance absolue de l'individu, fondement du dogme démocratique. La liberté, fondement de la nature de l'homme, c'est ce qui explique que la politique soit aux yeux de Pierre Manent l'essence de l'humanité. Or, cette liberté, nous nous devons de la défendre si nous voulons rester des hommes. Telle est l'ampleur du défi auquel nous sommes aujourd'hui confrontés dans notre combat pour les valeurs démocratiques. Et c'est là, me semble-t-il, la qualité singulière de la vision historique de Manent qui la met à l'abri de ce qu'on pourrait appeler la mélancolie démocratique, laquelle enveloppe, par exemple, les écrits d'un François Furet. Il y a en effet quelque chose de déterminé et de roboratif dans son travail. Peut-être d'abord le sentiment d'une urgence qui tient aussi à l'époque et à l'importance des défis nouveaux auxquels nous sommes confrontés. Comme Claudel dans son art poétique, celui qui ouvre le cours familier de philosophie politique, Pierre Manent se situe résolument dans le présent. C'est ce que marque une autre rupture, signalée par Pierre Manent dans son œuvre, avec la publication en 2006 de « La raison des nations », sous-titrée « Réflexion sur la démocratie en Europe ». Sur fond de la démission de la philosophie politique, ce livre met en garde, vous vous souvenez, contre l'affaiblissement de la forme politique qu'est la nation. La philosophie pratique de Pierre Manent n'est peut-être pas aussi éloignée dans sa réhabilitation des formes et de leur différence de l'histoire de l'esprit humain développée par Humboldt. Mais dans la confusion des empires démocratiques, qui est la nôtre, il lui faut encore aller au-delà, rétablir la hiérarchie des valeurs qui la fondent. C'est dans cette nécessité de rétablir le lien qui unisse consentement et existence collective que la religion prend son sens. Car ce qu'on mit au jour les attentats du 11 septembre, ce sont contre toute attente les lignes de fracture qui traversent le monde dans lequel nous vivons. Face à celles-ci et devant l'affaiblissement de l'État-nation, il nous faut réinventer les instruments du lien politique assurant la pérennité de la forme démocratique, puisque sous son expression moderne, c'est à elle que revient d'assumer au mieux l'union intime, dit-il, de la civilisation et de la liberté. C'est ici donc que Pierre Manent introduit le religieux. Alors je passerai peut-être sur cette partie religieuse, puisqu'il me reste, je crois, 2 minutes, dont on traitera demain et on pourra y revenir. La question que je poserai en conclusion, c'est de savoir donc quel est le véritable périmètre de l'histoire chez Pierre Manent. L'histoire est, me semble-t-il, à la fois individuelle et collective. Elle ne se laisse pas réduire à une discipline, j'espère vous en avoir convaincu, et conteste plus encore que les découpages la représentation des sociétés dont sont issues les sciences humaines. Au terme de cette enquête, il faut reconnaître que l'histoire est certes centrale chez Manent, mais ce n'est pas l'histoire telle que nous la connaissons et la pratiquons habituellement. Elle n'a rien à faire, me semble-t-il, avec une histoire politique, et elle s'éloigne de plus en plus d'une histoire philosophique et littéraire que l'on trouve sous la plume des penseurs contemporains. Alors l'histoire, est-ce un détour inutile, finalement, pour comprendre le travail de Pierre Manent ? J'espère vous avoir montré le contraire, car en déconstruisant la pensée historique qui est la sienne et en la reconstituant dans un autre lieu, un lieu qui, me semble-t-il, n'appartient qu'à lui, Pierre Manent affirme la singularité d'une pensée qui me paraît à jamais irréductible. Il réhabilite une histoire sur laquelle les massacres du XXe siècle ont fait porter l'anathème, lutter contre la pauvreté, mais contre l'appauvrissement de l'esprit, telle est en réalité la tâche que se fixe la philosophie pratique de Pierre Manent et dont l'histoire est, je crois, un des moyens. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Perrine Simon-Naoum. Je laisse maintenant la parole à Francesco Calegaro. Et le titre de sa communication est « La nature et l'histoire, la philosophie politique face aux sciences sociales ».
Merci. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je ne peux pas ne pas remercier évidemment les organisateurs, amis et anciens collègues du Centre Rond, Jean-Vincent et Giulio, de m'avoir invité. Évidemment, je suis très, très honoré d'être ici. En même temps, je mesure un peu l'énormité de la tâche qui m'a été confiée et de restituer le dialogue entre philosophie politique et sciences sociales. Si finalement j'ai accepté, c'est pour tout simplement remercier publiquement Pierre Manon pour son enseignement qui m'a ouvert les yeux sur Aristote, tout simplement, quand je venais suivre ses cours sur l'éthique et la politique dans ce même amphithéâtre, et qui a été un peu une révélation, aussi paradoxal que ça puisse paraître. En somme, on peut rater la philosophie politique d'Aristote, surtout si on se perd un peu dans les méandres de l'érudition anglo-saxonne, ce qui était un peu mon cas. Donc, de redécouvrir un Aristote politique et contemporain, et en fait, contemporain parce que politique, a été une source d'inspiration. Et en fait, c'est un peu de ça que je vais parler, la meilleure manière d'hériter aujourd'hui d'Aristote pour penser le présent. Et voilà, donc Pierre Manon, nous sommes ici réunis pour réfléchir sur la science politique que nous laisse en héritage Pierre Manon, c'est qu'il a été, et il est ici parmi nous, l'un des plus significatifs protagonistes de la renaissance de la philosophie politique. J'hésite à rajouter classique ou antique de la philosophie politique tout court, dans la pensée contemporaine. Toute son œuvre, comme son enseignement justement, sont en effet tendus vers l'élaboration d'une science du politique qui vise à relancer l'épistémé politique d'Aristote à la lumière de la rupture moderne, dans une transformation réciproque de la pensée et de l'expérience déterminée par leur rencontre même. Ainsi, loin de se borner à affirmer, comme d'autres néo-aristotéliciens, on l'a dit ce matin, la supériorité de la philosophie politique, Manon s'est surtout efforcé de la renouveler en profondeur, pour lui permettre de rejoindre une compréhension adéquate des potentialités politiques latentes du monde moderne, celle où elle puise ultimement ses propres conditions de possibilité. Donc il faut sauver la modernité pour sauver la philosophie politique. La nouveauté de cette science du politique tient donc tout entière, à mon sens, à la double orientation de son regard. Certes instruit par l'enseignement des anciens, mais toujours fermement focalisé sur l'expérience des modernes, ressaisie au-delà du clivage qu'elle semble introduire dans la compréhension de l'homme comme animal politique. D'ailleurs, et je l'ai découvert avec plaisir, c'est ce que Manon lui-même a récemment souligné, au moment de donner la formule qui résume le sens même de toute son entreprise. Pour refonder la philosophie politique, dit-il dans la préface à l'édition italienne des Métamorphoses, on ne peut pas se contenter de lire Aristote. Il faut encore, dit-il, essayer de faire ce que faisait Aristote. Dans la mesure où la lecture assidue des choses antiques n'a de sens que parce qu'elle est mise constamment à l'épreuve de l'expérience des choses modernes. Donc, comme j'ai tendance à croire aux auteurs, je pense qu'il n'y a pas à chercher très loin pour savoir quel est l'auteur qui inspire Manon. Manon est non seulement un aristotélicien, c'est un ultra-aristotélicien. C'est-à-dire qu'il essaie d'aller avec Aristote, au-delà d'Aristote, pour sauver Aristote, à la lumière de l'expérience moderne. Or, pour mesurer toute la portée de cette entreprise de refondation, il faut avant tout voir qu'au moment où elle cherche à traverser l'épreuve de l'expérience moderne, l'épistémé politique rencontre non seulement des choses, comme dit Manon, des faits, des événements, des institutions, mais encore et surtout des pensées, s'exprimant dans un discours qui a élaboré les conditions d'intelligibilité de la modernité en critiquant sa démarche propre comme ses catégories caractéristiques. En somme, pour se fonder, la modernité a engendré non pas une, mais deux sciences politiques qui se sont constituées comme telles en contestant ses droits à l'épistémé politique d'Aristote, donc les preuves intellectuelles. Et je pense qu'il faut se déplacer dans cet espace, constitué par ces deux ruptures épistémologiques, pour comprendre le défi que Manon a dû relever pour refonder, en fait, l'épistémé politique. Quel défi? Celui, justement, des sciences sociales. Donc, je vais très rapidement reprendre le tableau épistémologique de la modernité qu'on trouve au début des Métamorphoses de la cité. Très simple, mais comme toujours, très juste. En dernier lieu, vrai, tout simplement. Et pour essayer de restituer le point où se précise le défi entre philosophie, la confrontation entre philosophie politique et sciences sociales. Naturellement, la première science politique moderne est celle qui revendique pour elle-même l'usage exclusif du mot. C'est celle qui s'organise depuis Hobbes autour du droit naturel, pour déduire, à partir de la position originelle de l'individu, l'ordre politique à reconnaître ou à construire, ou les deux, comme intrinsèquement rationnel et légitime. La critique de cette nouvelle science politique s'adresse alors au tâtonnement empirique de la philosophie politique d'Aristote, qu'elle oppose à la rigueur géométrique de ses démonstrations rationnelles. Toutefois, c'est la critique que formule Manon, les théories contractualistes, pour rigoureuses qu'elles se veuillent, reposent sur des axiomes premiers qui dépassent en fait le cadre de toute expérience effective. Il faut alors en conclure que les enchaînements déductifs qu'elles nous proposent relèvent moins de l'élaboration véritablement scientifique que, en fait, de la construction idéologique, ou alors de l'expression et de la construction du sens commun des modernes. Penser politiquement la modernité suppose ainsi de sortir des catégories contraignantes élaborées par la première science politique moderne, qui apparaît après coup comme une pseudo-science, en fait. En remettant notamment en cause la projection imaginaire d'un individu qui serait déjà humain, bien qu'encore apolitique, pour lui substituer la représentation plus adéquate, plus exacte, qu'on trouve très souvent dans les livres de Manon, d'un simple animal, apeuré, qui ne devient proprement humain qu'en devenant partie d'un tout, ayant toujours à se mesurer à une loi préétablie, et donc en un sens pré-contractuel, qui le dépasse dans la mesure même où il le transforme dans un être véritablement humain. Donc paradoxalement, pour retrouver l'autogouvernement et même le commandement, il faut commencer par penser que la loi est déjà donnée. Articuler l'expérience politique dans l'écart dont elle témoigne par rapport aux catégories élaborées par les théories contractualistes. Telle est, en un sens, et telle a été l'impulsion de la deuxième science politique moderne. En ce sens, si cette deuxième science critique elle aussi l'épistémé politique d'Aristote, c'est tout d'abord pour mieux en suivre l'orientation propre. Elle entend en effet offrir une articulation plus complète de l'expérience politique, telle que se laisse désormais appréhender dans les conditions nouvelles introduites par la rupture moderne. C'est la voie ouverte, c'est ce que indique toujours Pierre Manon, par Montesquieu. Ainsi, à suivre la critique d'Aristote développée dans l'esprit des lois, il apparaît que le rejet de l'épistémé politique se fait surtout, avant tout, en raison des limites de l'expérience grecque. Donc on veut bien orienter la pensée d'après l'expérience, mais l'expérience grecque est limitée. Ces limites se marquent avant tout par l'incapacité dont fait preuve Aristote dans sa politique de penser la monarchie, objet impensable pour tous les Grecs, dont il importe pourtant au plus haut point de se faire une idée satisfaisante. S'il est vrai, comme Manon le souligne, je le cite, que la victoire de la monarchie au sens propre du terme a été le vecteur de l'histoire politique de l'Europe. Or, le problème, c'est que Montesquieu n'a pu rendre compte de la monarchie, emblème et source de la différence moderne, qu'en remettant en cause la classification aristotélicienne des régimes, jusqu'au point d'en forger une autre fondée sur un tout autre critère classificatoire. Donc, du gouvernement, d'un seul, on est passé à une forme politique, la monarchie, dont le principe est incompatible, évidemment, avec celui de la cité, de la République antique. Montesquieu a donc proposé, c'est une interprétation que propose justement Manon, pour se comprendre lui-même, une classification des formes politiques dont Manon reconnaît volontiers qu'elle est plus raffinée de celle d'Aristote, dans la mesure même où elle dépasse la question du nombre. Puisque la République peut être tant aristocratique que démocratique, et que la monarchie partage avec le despotisme le fait de s'exprimer dans le gouvernement d'un seul, le nombre compte moins dans la compréhension de l'ordre politique que le principe qui l'informe. C'est ça le côté plus raffiné de Montesquieu, que Manon reprend à son propre compte, dans la mesure même où il utilise la notion de forme politique. Point où elle vient se résumer dans sa signification politique, le principe organise ainsi la compréhension de la totalité réelle dans laquelle la nature de l'homme vient s'inscrire pour s'accomplir. Donc c'est ça le premier pas, en quelque sorte, au-delà de l'épistémé politique, pour la mettre à la hauteur de l'expérience moderne. On passe du régime à la forme. Mais Montesquieu n'a pas fait un seul pas, il en a fait deux. Il a fait un pas de plus, puisqu'il est allé jusqu'à sécouer le présupposé même de l'épistémé politique, à savoir l'idée selon laquelle l'ordre politique constitue l'instance déterminante et synthétique du monde humain. Plusieurs choses gouvernent les hommes. Tel est l'énoncé fatal de l'esprit des lois, celui qui résume, aux yeux de Manon, la révolution épistémologique, c'est son expression, que les sciences sociales viendront accomplir. en radicalisant l'idée directrice qui s'y formule. Ainsi, alors que Montesquieu s'était encore efforcé de retrouver la primauté du facteur politique, les sciences sociales ont poussé jusqu'au bout son principe, se débarrassant définitivement du mythe du législateur pour transformer les causes finales orientant son action en causes efficientes déterminant le surgissement nécessaire des lois. Le pouvoir appartenant désormais à une société globale saisie dans son irréductibilité à l'ordre politique. Le pas de plus est devenu ainsi un pas de trop. La tradition philosophique inaugurée par Montesquieu, loin de se constituer comme une voie alternative à la science politique de Hobbes, a en effet fini par se réduire, à travers une série de médiations, Tocqueville évidemment la plus importante, à une étape préparatoire dans le processus de constitution de la pensée sociologique. C'est contre cette révolution épistémologique des sciences sociales qu'a voulu réagir Manon, dans et par l'élaboration d'une philosophie politique, d'une épistémée politique, qui, bien que nouvelle parce que capable d'embrasser l'expérience moderne, entend néanmoins rester suffisamment ancienne pour préserver le primat du facteur politique dans la compréhension, l'explication et l'orientation de l'agir humain. Sa nouvelle science du politique se laisse ainsi comprendre comme une synthèse entre l'ancienne et la nouvelle, une sorte de troisième science politique, c'est ça la nouveauté, qui s'efforce de donner un autre prolongement alternatif à celui des sciences sociales, parce qu'axé sur le primat du politique, à la tradition inaugurée par Montesquieu et prolongée par Tocqueville. C'est toujours comme ça que je loue Manon, comme le dernier plus éminent héritier de cette tradition de la philosophie politique française. On comprend alors la place centrale qu'occupe la confrontation avec les sciences sociales. Rapprochés par un héritage philosophique commun qui les ouvre en même critique des catégories centrales de l'idéologie moderne ou du sens commun moderne, comme des savoirs ou pseudo-savoirs qui les développent pour les légitimer, philosophie politique et sciences sociales sont vouées à entretenir des rapports marqués par une certaine rivalité mimétique, je dirais, ayant à croiser sans cesse les fers pour établir quel regard est mieux à même de retrouver la totalité réelle au-delà de l'individu imaginaire. C'est ça l'enjeu fondamental. S'il s'agit du regard qui s'oriente d'après l'idée de forme politique ou de celui qui s'engage dans la voie de la société globale. Les deux niveaux d'analyse étant si profondément liés que le choix de l'un ou de l'autre décide de toute une perspective sur l'homme. Loin de se réduire en pure héristique disciplinaire, la confrontation entre philosophie politique et sciences sociales offre ainsi à chaque perspective sur l'homme l'occasion de lancer en fait un défi à l'autre, la renvoyant à l'obligation de radicaliser la réflexion pour expliciter ses engagements fondamentaux et être ainsi à la hauteur de l'ambition qu'elle affiche. Et je pense que c'est cette dialectique-là, entre philosophie politique et sciences sociales, donc au-delà de la simple polémique, qu'on retrouve dans les ouvrages majeurs de Pierre Manon. Dans un premier temps, celui de la Cité de l'Homme, Manon a en effet lancé son défi aux sciences sociales, juste après être rentré à l'école, à travers une confrontation qui lui a permis d'ouvrir à nouveau le regard politique, en faisant réémerger le concept central de l'épistémé politique, en fait, tout simplement, la nature politique de l'homme. Manon, il a alors défini la perspective propre de la philosophie politique en renvoyant la sociologie, celle que Durkheim a développée en prolongeant la science politique de Montesquieu, à une élaboration plus approfondie de ses engagements premiers. En fait, c'était une invitation à réfléchir, jusqu'au point de la forcer à sortir de l'horizon de l'histoire pour prendre position à son tour sur la nature de l'homme. Dans un deuxième temps, celui des métamorphoses de la cité, dont il vient d'être question, Manon a cherché, en revanche, à relever le défi porté par les sciences sociales, le défi historiciste, si on veut, à travers une confrontation qui l'a conduit à revenir sur la perspective de Montesquieu pour s'efforcer d'élaborer, pour son propre compte, un concept de forme politique lui permettant d'inscrire la nature politique de l'homme dans l'histoire et être ainsi en mesure d'en penser la pleine réalisation dans les conditions nouvelles d'une modernité qui a laissé derrière elle définitivement le cadre étroit de la cité. Donc, dans mon titre, nature et histoire ne se distribuent pas du tout dans le sens de philosophie politique et sciences sociales. En réalité, c'est l'enjeu de la confrontation, de savoir quelle conception de la nature de l'homme et quelle conception de l'histoire on se fait lorsqu'on confronte philosophie politique et sciences sociales et qu'on accepte la dialectique entre les deux. Bon, mon idée, c'était d'analyser les deux moments. Évidemment, il faudrait longtemps, donc je ne peux pas du tout. Et je vais me borner tout simplement à suivre le mouvement qui conduit de l'un à l'autre. D'autant plus qu'on vient d'entendre un très bel exposé sur les métamorphoses de la cité. Donc je vais suivre la critique développée dans La Cité de l'Homme et j'avais essayé de cerner de près le problème commun où philosophie politique et sciences sociales finissent par se croiser, et donc par mesurer bien la différence qui les sépare. Voilà. Donc essentiellement, toutes les citations vont être tirées, sauf exception de la Cité de l'Homme. Alors, Sim Manon fait souvent référence dans ces moments critiques aux sciences sociales, voire aux sciences humaines, selon une terminologie répandue. C'est en réalité plus spécialement à la sociologie, dans l'acception étroite et rigoureuse assignée à ce terme par Durkheim, que s'adresse sa critique. Je crois que la raison, c'est tout simplement que Montesquieu n'a pas simplement ouvert le champ général des sciences sociales. Il a fait ça, naturellement, parce qu'il a nommé l'ensemble des faits qui composent l'esprit, et donc qui peuvent être autant de domaines d'investigation, la religion, l'économie, la langue. Mais en fait, c'est la sociologie durkheimienne, et seulement la sociologie durkheimienne, qui a hérité de sa science politique, comme de son ambition de repenser l'expérience des modernes pour mieux l'orienter dans son devenir. Et c'est pour cette raison qu'avant de s'engager dans sa critique approfondie du point de vue sociologique, Manon commence par reconstruire, avec une extrême finesse, il faut dire, les sources proprement modernes d'un projet intellectuel et politique dont il entend restituer la visée première pour mieux mettre en évidence les faiblesses constitutives. Donc, dans son analyse, la sociologie, contrairement à la conception assez répandue, apparaît comme l'expression théorique la plus aboutie de la conscience historique des modernes. Une conscience que la sociologie vise à élucider dans ses fondements pour lui permettre de surmonter les impasses que les individus modernes rencontrent lorsqu'ils s'en tiennent à son expression idéologique, donc au sens commun, disons. En ce sens, si le besoin d'une nouvelle science de la société s'est fait sentir, c'est moins parce qu'il fallait résoudre la question sociale, comme on dit très souvent, que parce qu'un paradoxe paralysant semblait accompagner l'affirmation même de la rupture moderne. En effet, en raison du contraste qu'elle établit avec l'expérience qui la précède, la conscience historique des modernes suppose de diviser l'humanité en deux expressions non seulement différentes, mais encore radicalement incompatibles. Le contraste avec les non-modernes fait ainsi apparaître une transmutation de toutes les valeurs, celle que Manon résume en opposant le régime de la loi à celui de la liberté. Évidemment, la signification de ces termes est problématique, et toute la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par loi et qu'est-ce qu'on entend par liberté, puisqu'on pourrait tout à fait la renverser. Et donc, en réalité, l'objectif, c'est de savoir penser non seulement la liberté des anciens, mais la loi des modernes, si je comprends bien. Si j'y arrive, je ne vais pas y arriver, mais c'était l'idée de ma conclusion. Une fois saisi l'impasse de ce contraste comparatif, on comprend en quel sens la modernité ne pouvait se penser sans surmonter le paradoxe tocquevillien qui traverse toute la réflexion de Pierre Manon, des deux humanités distinctes. Alors, en dépit des facilités que s'est accordée une certaine anthropologie, la solution du paradoxe de la conscience historique est moins évidente qu'il n'y paraît. En effet, si l'on enferme l'idée de nature humaine, on est obligé de prendre parti pour une expression au détriment de l'autre, puisqu'elles sont de prime abord incompatibles. Donc si on choisit la nature, il faut choisir. Alors que si on enferme l'histoire elle-même, on est forcé de réduire l'humanité au spectacle de sa diversité, puisque rien dans l'expérience elle-même ne semble pouvoir la reconduire en forme d'unité. Donc, des deux côtés, on est intellectuellement et politiquement paralysé. On ne sait pas quoi faire. Or, et c'est ici qu'on a un premier moment important de l'analyse de Manon, la solution proprement moderne au paradoxe de la conscience historique, celle précisément que la sociologie est venue développer en se fondant comme telle, est résumée par Manon dans la Cité de l'Homme en ces termes, je le cite. Lorsque cette conscience se formule explicitement et objectivement, elle conclut que les deux humanités distinctes, incompatibles et successives, sont contenues et portées par un élément qui ne peut être ni la nature ni la loi, et qui est donc la mère et la somme de toutes les successions, l'histoire, l'histoire avec un grand H. Donc pour se penser, la modernité a dû passer tout simplement de la conscience historique, du simple fait de la conscience historique, à l'histoire. Autant dire qu'elle a dû se faire sociologique. En effet, c'est avant tout pour permettre aux sociétés modernes de mieux se comprendre dans la rupture qu'elles ont fini par introduire que Durkheim a fondé la sociologie, en poussant jusqu'au bout le principe propre de la science politique de Montesquieu. Rompant ce lien résiduel avec l'épistémé politique d'Aristote, Durkheim a ainsi transformé la deuxième science politique moderne en se déplaçant résolument du niveau de la forme politique à celui de la société globale, introduisant en même temps dans son discours un concept central qui faisait défaut, celui de progrès historique. Je pense que la différence, elle est là. La société apparaît alors comme un découpage introduit par la sociologie au sein d'une histoire dont elle entend reconstruire le développement progressif afin d'expliquer et dépasser l'opposition ancienne-moderne. Donc, s'appuyant sur la thèse latine de Durkheim, consacrée à l'esprit des lois, Manon fait alors ressortir la force de l'argument sociologique, conformément à sa démarche dialectique, avant et pour mieux en éprouver les limites. Quel est, en somme, l'argument de Durkheim contre Aristote? Au fond, il y a un seul argument. Quand Durkheim dit qu'Aristote a confondu les espèces de société avec les différentes formes d'État, en disant tout simplement ça, il a surtout voulu mettre en évidence une différence ontologique qui a échappé, comme telle, au regard trop étroit de l'épistémie politique. Si cette différence ontologique entre l'État et la société s'impose, c'est qu'un même régime peut se retrouver dans deux types distincts de sociétés, alors que la même société peut perdurer comme telle en dépit d'un changement radical de régime. Et on pense évidemment à la Révolution. Il faut donc conclure avec Durkheim que la classification des sociétés par Aristote n'exprime rien touchant la nature des sociétés. Où l'on voit bien que dans la question de la classification, qui est au centre aussi de la réflexion de Manon, ce n'est pas juste une question épistémologique de se construire une typologie utile, mais en réalité, il faut construire une typologie qui répond à l'articulation même du réel. Donc on le voit, le raisonnement conduit en conclusion qui remet en question le fondement même de l'épistémie politique d'Aristote. S'il s'agit bien de savoir ce qui fait que la cité est une et même, question que Aristote, comme on sait, formule au livre 3 de la politique, la conclusion pointe moins vers la constitution au sens étroit des lois et maximes qui définissent le régime que vers la constitution entendue au sens large de l'ensemble de conditions intellectuelles, morales et matérielles qui précèdent et survivent au changement de régime. Tel est précisément l'argument qui a conduit Montesquieu à passer d'une classification par le nombre à une classification par le principe. Autant dire qu'en somme, la constitution au sens sociologique désigne l'esprit des lois. À cette différence près, toutefois, que pour Durkheim, il s'agit moins de simples contraintes orientant l'action du législateur que des causes relevant d'un ordre de réalité qui détermine la forme politique elle-même. Donc on passe effectivement, on descend d'un niveau de réalité, on descend plus en bas, et on passe d'une loi à une autre, de la loi normative qui établit le législateur engagé dans l'action, à la lumière des raisons tirées de l'esprit social, à la loi explicative qui établit le sociologue observant l'action causale des éléments qui le composent. Donc il suffit de rajouter le concept de progrès historique et on a une science qui prétend se substituer à la science politique et reconstruire le devenir historique de la société. Manon en tire alors cette conclusion où l'on mesure toute l'indignation que suscite la sociologie dans sa volonté de destituer l'homme du rôle orgueilleux de cause. Je le cite. Tel est bien le renversement accompli par le point de vue sociologique. Pour que le phénomène humain puisse être objet de science, il faut et il suffit que les lois sociologiques soient générales et nécessaires. Et la condition nécessaire et suffisante de telle loi, c'est que l'homme, au lieu d'être la source libre, naturellement libre de ses actions et de ses œuvres, soit rigoureusement nécessité à faire ce qu'il fait et comme il le fait. Il y a peut-être un point d'excès ici, comme il le fait. En tout cas, c'est vrai que sous le regard sociologique, c'est la conclusion du passage, l'homme apparaît non plus comme cause, mais comme effet, non plus comme causant, mais comme causé. Le renversement qui fonde le regard sociologique rencontre alors la critique de la philosophie politique, qui entend le renverser à son tour pour ouvrir son propre regard politique. Donc évidemment, la dialectique qui est déployée est extrêmement complexe, je ne veux pas du tout la réduire, mais je pense qu'on peut la reconduire à un double ordre de critiques, qui tous les deux découlent ensemble des principes fondamentaux de l'épistémie politique d'Aristote. En fait, c'est ça l'opération qui est faite de la critique de la sociologie. J'ai très peu de temps, n'est-ce pas? J'ai combien de temps?
Oui.
Donc je vais me limiter à restituer au moins les deux ordres de critiques qui sont formulés dans la cité de l'homme. Il s'agit tout d'abord de savoir à quelles conditions la sociologie peut prétendre d'être une science. C'est ça la première question critique. Face à la multitude de paramètres qu'elle indique comme autant de causes des lois, une alternative se dessine, en effet, qui l'oblige à expliciter son engagement théorique premier. Ou bien la sociologie tourne en rond à la ronde des paramètres sociologiques, ce qui veut dire qu'ultimement elle renonce à expliquer pour se borner à comprendre les relations réciproques entre les différents facteurs de l'esprit social, ou bien elle cherche à expliquer, ce qui suppose qu'elle est en mesure d'établir une hiérarchie des causes reposant sur l'identification d'une cause déterminante en dernière instance. Or, même si de nombreux sociologues, j'en ai ici, vous me corrigerez si je me trompe, ont finalement renoncé à la tâche explicative pour se confiner dans l'horizon d'une exploration compréhensive de l'esprit social, Manon a raison d'en conclure que leur science n'en est pas vraiment une, du moins si on la mesure à la lumière justement de l'épistémé politique. Je le cite. Le problème de la cause sociale en dernière instance ne fait qu'un avec la question du poids relatif des divers paramètres sociologiques. À cette question, qui n'a rien de transcendantal, il faut bien répondre quelque chose, s'il doit y avoir une science sociale. Le quelque chose, c'est en italique, donc il faut entendre un accent d'exaspération. Donnez-moi quelque chose. La question soulevée par Manon n'a rien de transcendantal, sans doute. Elle a pourtant quelque chose de philosophique. S'il est vrai qu'elle suppose, pour être résolue, de prendre position sur la nature de l'homme, c'est ça l'enjeu. En effet, comme le souligne Manon, on ne peut répondre à la question de la cause déterminante en dernière instance qu'en recourant à un principe d'unité de l'expérience humaine. Pour fonder ses explications, à supposer qu'elle ait envie de les donner, le sociologue est alors obligé de faire ce qu'il s'interdit. Je cite Manon, « Il doit parler comme un philosophe, ou du moins à la manière d'un philosophe, puisqu'il doit pouvoir penser la cause où vient s'exprimer la puissance même de la société. » Donc, en un sens, si la société globale est un tout, il y a des parties qui sont plus totales que d'autres. C'est ça le principe philosophique de la sociologie. Manon fait alors remarquer, se moquant quelque peu des sociologues contemporains qui nous inviteraient, une fois confrontés à ce problème, à ne pas réifier les concepts, on entend très souvent, il ne faut pas faire de métaphysique, que sans une telle réification, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse porter le poids d'une véritable explication scientifique. Je vous cite un dernier passage qui est le point d'aboutissement de ce premier mouvement critique. Je le cite. « Si la société ne prenait pas nécessairement un peu ou beaucoup de la densité causale propre à une substance, à une nature, si la société du sociologue ne rassemblait pas en cela à la nature du philosophe classique, le sociologue n'aurait devant les yeux que la somme indéfinie et indéterminée des différences, une somme ou une série évidemment rebelle à toute prise scientifique. » Au vrai dire, le sociologue lui-même ne peut être confiant dans sa science, il ne peut se croire que pour autant qu'il garde une foi implicite et obscure en la nature sociale de l'homme, en la vieille nature. Donc c'est ça, on a fini la chasse, on a attrapé le sociologue. Alors, je n'ai pas le temps de développer toute la dialectique, mais que faut-il répondre à cette première objection philosophique ? Mais je pense qu'il n'y a absolument rien à répondre. Il n'y a rien à répondre à des objections de cette teneur, sinon accepter le défi qu'elle lance. Ainsi, la sociologie ne peut se fonder comme science que si elle élabore la philosophie sociale qu'en fait elle porte en son sein, celle qui lui permet justement d'expliciter sa foi implicite et obscure, la faisant devenir explicite et claire, en la nature sociale de l'homme. Autant dire qu'elle ne peut se constituer comme un héritage hérétique de l'épistémé politique, qu'en s'engageant toujours à nouveau en une controverse théorique, purement théorique, au sujet de la nature de l'homme, pour montrer que le zoon politikon d'Aristote, si sans doute il fait référence à l'animal politique vivant dans une cité, doit être compris avant tout dans un renvoi à sa condition d'être social. Et c'est, en fait, dans les textes classiques, chez Durkheim en particulier, on trouve très souvent cette traduction trahison de zoon politikon par animal social. Donc on peut s'insurger ou dire qu'en fait c'est l'opération constitutive de la sociologie dans son héritage hérétique de l'épistémé politique. En ce sens, la critique philosophique vient rappeler à la sociologie son ambition théorique originelle, comme la nécessité de retrouver le sens des controverses qui décident de sa fondation. Les différents projets sociologiques se laissant comprendre comme autant de réponses données au problème de déterminer la nature sociale de l'homme. C'est comme ça qu'il aurait fallu réagir à la Cité de l'Homme, relancer les controverses théoriques sur la nature de l'homme. Face à la philosophie politique, la sociologie doit donc s'appuyer sur la philosophie afin d'indiquer lequel, parmi tous les paramètres sociologiques, est suffisamment synthétique pour disputer aux politiques sa place de cause déterminante en dernière instance. Je pense que si on reste dans la lignée de Durkheim, la réponse ne fait pas de doute, c'est la religion. Donc le débat s'est fait là-dessus. Ça, c'est la première critique. Donc, elle a ce caractère fécond parce qu'oblige les sociologues à nouer un rapport avec les philosophes. Venons-en maintenant à la deuxième critique. À supposer qu'elle s'engage dans une enquête qui, loin de se borner à décrire et comprendre les éléments qui composent le contexte englobant de l'action, entend aussi expliquer cette dernière sous la base d'une hiérarchie des causes, la sociologie doit encore répondre à une deuxième difficulté. Il s'agit en effet de savoir si, après avoir identifié les causes sociales particulières qui déterminent l'action, elle est aussi en mesure de mettre à l'épreuve la validité des différents principes pratiques qu'elle aura par la même expliqués dans leur genèse. Autrement dit, il faut savoir si la sociologie, après avoir éventuellement établi une hiérarchie des causes, elle est aussi capable d'établir une hiérarchie des fins. D'un côté, c'est la question de l'explication. Maintenant, c'est la question du jugement. Donc, on interroge la sociologie dans sa capacité de soutenir sa tâche critique, sa tâche de jugement de la réalité. Or, si cette question se pose, si elle n'est pas tout à fait extérieure à la sociologie elle-même, c'est qu'en réalité, comme l'explique très clairement et très puissamment maintenant dans la Cité de l'Homme, on ne peut expliquer l'action sociale que si l'on respecte tout d'abord sa nature rationnelle. Dire d'une action qu'elle est sociale, c'est avant tout dire qu'elle se fonde implicitement sur des raisons d'agir compréhensibles aux autres, donc partageables. En ce sens, comme le souligne Manon, toute action humaine, dans la mesure même où elle est sociale, doit être appréhendée comme le résultat d'une délibération au moins implicite. C'est l'expression de Manon. Donc, toute action n'est pas forcément actuellement délibérée, mais elle repose sur une délibération au moins implicite. Or, justement, une fois saisie dans son potentiel rationnel, l'action humaine se trouve renvoyée à la possibilité d'une autre délibération, celle qui s'interroge, selon les mots mêmes de Manon, je le cite, sur la validité, la pertinence, l'honnêteté, la justice, la noblesse de la première. Et en fait, c'est cette délibération de second degré, délibération sur la délibération, qui met à l'épreuve la validité des principes pratiques, que la philosophie politique elle-même a voulu déployer par elle-même, pour s'efforcer de saisir l'universalité implicite de la délibération humaine. Or, c'est ici que, c'est à partir de ce point de vue que Manon formule sa critique. C'est en effet le moment le plus vigoureux de sa critique. Parce qu'en effet, la sociologie lui semble être structurellement incapable d'accomplir une telle tâche critique, de soutenir cet examen critique des principes pratiques qui orientent l'action. En effet, enfermé tel qu'il est dans son point de vue de spectateur, le sociologue ne peut faire plus que comprendre et expliquer les croyances des agents. Du moins, telle est la position que critique Manon. Il ne peut rendre compte de l'enquête rationnelle que les acteurs mènent lorsqu'ils se trouvent face à plusieurs finalités pratiques. Pour répondre au problème de la justice, du fondement de validité des principes, en remontant vers l'universel. En ce sens, l'explication sociologique de l'action semble nous restituer un homme privé de raison, au sens du privé de capacité de délibérer, parce qu'il est incapable de revenir sur les principes de son action pour les évaluer. Il faut alors en conclure, et on voit bien la charge. Il faut conclure, oui, je conclue. Je prends 2 minutes. Et il faut alors en conclure, et on voit bien la charge critique de l'analyse de Manon, que la saisie sociologique du monde social, pour autant qu'elle s'éloigne de l'action, est, je le cite, nécessairement mutilée et confuse. On voit donc quel est l'enjeu de cette deuxième critique. En soulevant ce qu'il appelle la question de l'universel, Manon entend en effet interroger la sociologie dans sa prétention essentielle, dans sa visée même. C'est-à-dire que si on suit sa critique, on comprend que la sociologie ne peut être une science de la société que si elle est capable d'ouvrir et prolonger à son tour le questionnement sur la justice qui se fait jour dans l'action sociale. Pour autant qu'elle est toujours essentiellement une action rationnelle. Quelle est alors la conséquence? Et je vais m'arrêter là. Il faut voir quelle est la conséquence de cette critique. Si le sociologue entend respecter les caractéristiques propres de l'action dans le monde social dont il s'occupe, le sociologue est obligé de repenser le sens même de la position de savoir qu'il prétend occuper. En effet, en restant au plus près de l'action, il se trouve confronté à un débat rationnel sur la justice, qu'il ne peut décrire sans par là même s'engager dans la solution du problème qui y fait surface. Ce qui le conduit ultimement, fait remarquer Manon, à quitter sa position de spectateur. Donc, on a attrapé le sociologue une deuxième fois. Je termine là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut répondre à cette deuxième objection, qui porte sur la tâche critique, pour une deuxième fois? Rien du tout. Il n'y a rien à répondre, sinon accepter ce deuxième défi. Loin de pouvoir se contenter de dégager les causes sociales des croyances particulières, le sociologue doit pouvoir saisir les conditions et circonstances spécifiques dans lesquelles les acteurs se trouvent ouvrir un débat sur la justice, des différentes finalités qu'ils poursuivent. Préalable indispensable pour qu'elle puisse y intervenir à son tour au titre de la politique qu'elle recèle. Alors peut-être la seule différence, c'est que je pense que ce qu'on vient de décrire là, c'est en réalité le projet originel de la sociologie. En effet, et notamment dans la veine, disons, durkheimienne. En effet, à la différence de ses héritiers contemporains, ralliés derrière la bannière d'une neutralité axiologique qui suppose de souscrire au clivage idéologique moderne des faits et des valeurs, Durkheim s'est donné les moyens de reconnaître que les valeurs, loin d'être des purs produits de la volonté individuelle, sont tout d'abord des choses. Ce sont des faits sociaux qu'on éprouve comme des choses. Il s'est alors efforcé de rendre compte de la genèse historique, des formes sociales plus libres, parce que capable de mettre explicitement à l'épreuve la validité des valeurs sociales, dans et par des confrontations publiques qui appellent non seulement l'intervention des intellectuels, mais encore des sociologues eux-mêmes, à l'occasion notamment des affaires qui interrogent les principes de justice jusqu'au point de soulever la question même de la société. Et donc, en un sens, si on la comprend bien, la critique philosophique vient une fois de plus rappeler à la sociologie sa visée propre. Celle qui en fait une science pratique dont la tâche critique spécifique consiste à participer à l'articulation des finalités valides de l'action lorsque le problème de la justice se pose dans les affaires qui surgissent au sein du monde social. Et pour finir sur un pic critique, évidemment, le philosophe se retrouve ici en tant qu'intellectuel objectivé. Merci.
Après ces deux exposés passionnants, nous pouvons passer aux questions.
Non, parce que je me sens obligé de dire quelque chose parce que ces exposés étaient, je les ai trouvés extrêmement pertinents, aigus, comme ceux de ce matin d'ailleurs. Mais j'ai plus de difficultés à répondre immédiatement. Je veux dire deux petites choses, deux et demi. À Perrine, sur le rapport avec les auteurs, cette idée d'une amitié de plein pied avec les auteurs me plaît. Je la relis à Léo Strauss. Tu as dit que, en somme, j'avalais en quelque sorte l'ésotérisme de Strauss. J'en suis pas sûr. En tout cas, la question de l'ésotérisme est beaucoup moins importante pour moi que pour Strauss. En revanche, où pour moi Strauss a été extraordinairement précieux, libérateur, je l'ai dit, c'est parce que son intérêt passionné pour penser un auteur comme il, comprendre un auteur comme il se pense lui-même, conduit à faire cette expérience extraordinaire, que à travers les plus grandes distances de temps, on parvient à converser avec un auteur comme avec son voisin. On parvient à converser, cela demande beaucoup d'efforts, mais on parvient à converser avec Aristote ou avec Hobbes, comme nous conversons en ce moment. Et ça, c'est une expérience qui n'est pas une expérience privée. On peut considérer qu'elle est complètement illusoire, je suis sûr. Bon, bien sûr, un historiciste hausse les épaules, hausse les sourcils et dit si tu crois ça, tu croiras n'importe quoi. Bon. Mais je crois ça comme résultat de cette expérience. L'expérience de lecture est en elle-même un argument, je dirais, contre l'historicisme. Parce que c'est l'expérience de la proximité des âmes les plus éloignées. Voilà. Le point sur lequel je serais moins d'accord avec ta formule, Perrine, c'est à propos de l'histoire politique. J'aimerais quand même que si je dois sauver une histoire, ce soit l'histoire politique. Parce que je crois que, précisément, l'histoire des régimes, l'histoire des formes politiques fait partie de la compréhension du dynamisme de la chose politique. Tu as parlé de la physique, du dynamisme. Bon, après tout, Aristote lui-même fait une histoire de la cité grecque, sa constitution d'Athènes est une histoire du régime athénien. Et il y a même des arguments que on pourrait dire commodément historiciste lorsqu'il dit aujourd'hui, il dit comme Tocqueville, aujourd'hui tous les régimes sont nécessairement plus ou moins démocratiques. Aujourd'hui, à l'aujourd'hui d'Aristote. Donc, une certaine histoire comme compréhension d'un développement dynamique d'une forme ou d'un régime me paraît indispensable. Alors, deuxième remarque, ou troisième, à propos de ce qu'a dit Francesco, et de ce que disait aussi Perrine, la question de l'âme et la question des formes politiques et la question de ce que dit le sociologue, de ce que dit le philosophe. Bon, il y a quelque chose chez Durkheim qui est extrêmement intéressant, c'est la question du volume des sociétés. Et je crois que cette question est extrêmement importante parce que le volume n'est pas simplement une condition extérieure, c'est une condition intérieure de l'âme. C'est-à-dire que l'âme qui est l'âme du citoyen de la cité, c'est pas l'âme du citoyen de l'empire, c'est pas l'âme du citoyen de l'église, c'est pas l'âme du citoyen si c'est un citoyen de la cosmopolis. Mais ça, c'est pas du tout une détermination par le contexte. C'est que il y a une correspondance entre l'âme et la cité. Il y a des dimensions intérieures de l'âme, il y a des modifications des dimensions de l'âme par la communauté à laquelle elle participe. Et je crois donc, pour rejoindre ce qu'on disait ce matin, c'est dans la cité que l'âme a le plus d'activité. Parce que le citoyen, bon, un historien parlait fameusement du métier de citoyen dans la Rome antique, mais le citoyen est toujours actif dans la cité ancienne. Et c'est le régime de la plus grande activité de l'âme. Et plus la communauté ou la forme politique s'étend, d'une certaine façon, moins l'activité est directe et immédiate, et de plus en plus d'éléments échappent, au fond, à la délibération complète. Idéalement, dans la cité, il n'y a pas d'action qui ne réponde à une délibération complète. L'étendue de la société, plus la société s'étend, plus se multiplient les actions sociales, c'est-à-dire les actions non politiques, non complètement politiques, les actions qui ne sont qu'à moitié délibérées, un quart délibéré, un huitième délibéré, un dixième délibéré, ou pas du tout délibéré. Et donc, nécessairement, ces actions peuvent être pensées de plus en plus plausiblement, non pas comme le résultat d'une délibération, mais comme l'effet d'une cause. Mmh. Donc je crois que de cette façon, on pourrait peut-être réconcilier, mais vraiment pas du tout pour faire une paix académique, mais réconcilier la perspective philosophique et la perspective de la sociologie originelle autour de cette question de l'action et de la délibération, autour de cette question des transformations au régime de l'action qu'induit l'extension du domaine de l'action. Ce serait une suggestion dans cette direction d'une perspective commune, d'une certaine façon, sur entre la sociologie et la philosophie pratique, sur la chose commune.
Oui, à peu près, j'espère que vous répondrez à ce que Pierre vient de dire. En tout cas, je voudrais vous remercier pour vos deux exposés, pour vos deux communications. Et pour vous permettre un peu de rattraper, je voudrais vous poser deux questions sur ce que vous n'avez pas dit par manque de temps. Bon, d'abord, je commencerai par Francesco, que je remercie beaucoup, d'autant plus que son exposé, je le sais, il était trois fois plus long et plus riche. Donc, pour t'aider à le développer et peut-être pour déployer un peu la question implicite dans les titres de ton exposé, je voudrais continuer la chasse aux sociologues et aux présupposés sociologues et revenant à la première phrase que tu as dite, peut-être c'est ton inconscient qui l'a dite, donc je voudrais te la, de la cité. Tu as dit justement que ce que tu as pris parmi les autres choses dans les dialogues avec Pierre Manon, c'est le fait de comprendre un Aristote contemporain parce que politique. Donc je me pose la question, est-ce qu'on préserve les rapports entre la nature et l'histoire, c'est-à-dire la nature au sein d'une histoire, que quand on a une perspective politique? Parce que justement, le social, en tant que perspective qui achève l'historique, ne nous permet pas de voir justement la distance de temps. Donc c'est ta première phrase c'est à partir de ta première phrase que je t'interpelle, et te remercie encore, et à Perrine, que je remercie aussi. Je sais que vous avez dû, disons, écarter les passages sur la religion ou les religieux. Je voulais savoir justement comment vous alliez la développer, et vous posant la question justement si vous allez traiter génériquement du religieux ou du christianisme en particulier, parce que ça me paraît changer, disons, les termes du débat. Merci.
Bon, merci beaucoup pour la réponse et la question qui vont en fait dans le même sens. Donc, c'est très compliqué de répondre, mais je vais quand même essayer. Ce qui me frappe, c'est que c'est effectivement la possibilité d'ouvrir un horizon commun au-delà de cette confrontation. Et je le vois justement, c'est pour ça que j'ai mis la nature et l'histoire, parce que je pense que ça se distribue autour de cette tension entre la nécessité de l'histoire, en quelque sorte, et les conditions d'une pleine action politique. Il me semble que dans les métamorphoses, il y a un déplacement très accusé vers, peut-être pas l'histoire, mais l'historicité quand même, qui tourne justement autour de cette question du volume, qui est un point classique platonico-aristotélicien d'ailleurs. Quand ça augmente, la forme change. C'est le principe de la transsubstantiation, on peut dire, le volume, l'augmentation du volume. Et donc il y a une certaine nécessité. Dans le développement de tout n'est pas soumis dans le développement à la délibération, d'autant moins qu'on aboutit à des formes plus grandes. Donc ça c'est disons une dimension sociologique que je retrouve dans votre réflexion. Et inversement, la question disons politique qu'il s'agit justement de à laquelle il s'agit justement de répondre, c'est celle de savoir à quelles conditions il peut y avoir une prise politique du corps collectif sur lui-même. Alors, je ne suis pas arrivé jusque-là, mais je pense que le lieu où cette confrontation peut s'orchestrer, c'est tout simplement la théorie de la nation. Je pense qu'un endroit où on peut se retrouver pour réfléchir sur un corps politique plus grand que la cité, mais plus petit que l'Empire, pour que les choses puisse ne pas échapper à la délibération. Et en même temps, mesurer la différence entre, disons, conception philosophique, de philosophie politique et une conception sociologique, c'est justement la théorie de la nation. Donc, d'autant plus que, en somme, vous connaissez le texte de Mauss, on en a déjà discuté. Je pense que ce serait là l'endroit idéal, en fait, la question idéale pour avoir à la fois un point en commun et en même temps un terrain pour mesurer la différence et ne pas l'effacer, parce qu'en réalité elle est féconde. Il faut qu'il y ait deux regards incompatibles, parce qu'effectivement le politique et le social sont à la fois inextricablement liés, et en même temps si on choisit un angle ou l'autre, tout change. Donc, mais effectivement, je pense que la nécessité, à la fois la nécessité du volume, disons, et en même temps l'importance de la délibération sont deux points fondamentaux partagés des deux côtés. Mais seulement si on accorde que la sociologie est essentiellement politique. Donc il faut faire le pas non seulement vers la société globale, mais vers l'idée d'une capacité de la société à s'autogouverner. Il faut penser que la sociologie est intimement liée au projet des sociétés qui veulent s'autogouverner. Autrement, il n'y a pas de... Autrement, on tombe effectivement dans le piège des sciences sociales qui morcelle la société et qui la font, et on tourne en rond à la ronde. Voilà.
Oui, merci Giulio. Donc moi, je pensais aux religieux un petit peu dans deux directions. Je dirais d'une part, pour montrer la spécificité de la dynamique justement de l'histoire, en insistant sur l'analyse singulière de Pierre, qui est de remettre en cause la version de la sécularisation de la modernité quand il montre évidemment que le religieux, on n'est pas du tout dans le retour du religieux, mais qu'en réalité on ne l'a jamais quitté, la nation ayant absorbé la part religieuse, donc qui permet à l'ensemble des citoyens de communier entre eux. Et puis, j'avais une seconde approche du religieux qui revenait à mon, je dirais, à mes développements sur l'herméneutique et qui partait de l'analyse donc qu'on trouve sur le rôle singulier de l'État d'Israël dans la raison des nations et de l'injonction qu'il fait à l'Europe, avec laquelle Pierre le met en opposition, sur la vocation de l'universel, dans l'impossibilité finalement dans laquelle on se trouve d'être soi en se définissant par le regard, des autres. Et l'idée que, finalement, les formes politiques nationales, si elles veulent survivre, doivent refonder une identité dont le religieux pourrait être une des expressions. Donc, si tu veux, je l'attrapais des deux côtés, là encore, pour montrer la singularité de cette dynamique qui habite l'histoire.
Il y avait une question de Daniel
Tanguay. Oui, j'aurais une question pour Francesco concernant ta dernière finalement remarque. C'est concernant quel est l'interlocuteur en sociologie qui est possible pour la philosophie politique? Parce qu'il me semble que ton point de vue, au fond, est celui d'un Durkheimien élargi. Et donc, c'est une tradition sociologique particulière à l'intérieur finalement de la tradition française. Et on peut voir des échos à ce moment-là entre une certaine approche Montesquieu, Durkheim, Menérès. Mais si on prend les développements par la suite au XXe siècle de d'autres écoles sociologiques, ça devient un peu plus problématique. Est-ce que c'est un peu ça que tu entends quand tu parles de, finalement, sociologie politique? C'est dans la perspective durkheimienne où il y aurait des points d'attache possibles, alors que d'autres traditions sociologiques, finalement, seraient moins apparentées ou seraient plus difficiles à finalement, faire le rapport ou la connexion avec la philosophie politique.
Oui, non, c'est absolument ça. Et je, pour répondre avec une blague et comme ça, voir réagir Pierre Malan, des fois, je dis que les métamorphoses de la cité, c'est la meilleure introduction aux sciences sociales. au sens où on a une perspective qui permet de restituer d'apprendre la signification véritable, en fait, du projet sociologique, en tant que, on le rappelait aussi ce matin, le prolongement critico-hérétique de la philosophie politique. Mais c'est tout à fait évident que ça suppose de se placer dans l'héritage de Durkheim. Oui, c'est pas du tout comment dire. Est-ce que c'est un Durkheim élargi? Non, je pense que c'est tout simplement Durkheim. Par contre, c'est vrai que dans d'autres traditions, le sociologue n'arrive pas à se sauver des objections de Pierre Manon, notamment celle sur la question de la tâche critique et du jugement, et donc de l'autorité axiologique. Donc, en somme, il faut choisir entre Weber et Durkheim. C'est ça la question. Et voilà. Donc, c'est tout à fait ça. Par contre, il y avait une autre question, je n'y réponds pas du tout, mais juste pour souligner l'importance, il faut bien savoir, se demander qu'est-ce qui s'est passé après. Oui, parce que c'est une chose de faire l'histoire, et puis il faut voir quelle portée a cette reconstruction historique pour le présent. Donc, ça suppose de combler l'abîme qui sépare, disons, le projet sociologique originel d'aujourd'hui. Bon, mais ça, c'est pas le sujet.
Pas d'autres questions dans la salle. Une question de Francesco pour Pierre.
Si, non, mais j'avais une remarque à propos de cette histoire de l'histoire. Et ça peut prolonger l'échange. Parce que, en vous écoutant, En vous lisant, j'ai toujours en tête, en particulier les dernières œuvres, la Métamorphose et d'autres textes. Qu'est-ce qui fait que vous ne tombez pas dans la philosophie de l'histoire? Ouais. Et je pense que tout le monde, en lisant rapidement, dit « ouais, derrière, il y a une philosophie de l'histoire ». En fait, il n'y a pas une philosophie de l'histoire, il y a une histoire philosophique. C'est ce que vous appelez une histoire raisonnée. C'est ça l'adjectif que vous mettez à côté. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire de faire une histoire raisonnée, une histoire politique raisonnée. Qu'est-ce qui se cache derrière ce raisonné? Est-ce qu'à force de creuser, on retombe dans la philosophie de l'histoire? Est-ce qu'elle est tellement raisonnée que c'est une philosophie de l'histoire? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, je pense que c'est... Enfin, dans ce brouillon gigantesque que j'ai coupé pour écrire aujourd'hui, j'avais un peu réfléchi sur la notion même de forme. Et je pense que c'est là, en réalité, le résidu de quelque chose d'irréductible à la sociologie. Parce que dans l'idée de forme... Il n'y a pas simplement la cause formelle, il y a aussi la cause finale. Donc je serais un peu en désaccord, mais je voudrais vous entendre là-dessous, j'y pensais aussi ce matin. Et finalement, il y a quand même une finalité. C'est-à-dire que ce qui est apparu dans la cité, au sens de la polis, de la cité grecque, est aussi le propre de l'homme. Ce qui fait que le titre du livre est « Les métamorphoses de la cité ». Donc ça veut dire que les différentes formes politiques ne sont pas toutes sur le même plan. Il y en a qui rendent possible la politique, et il y en a d'autres qui ne la rendent pas possible. Et je me suis dit, je me demande si c'est ça, en fait, le point ultime de résistance de la philosophie politique, sa prétention d'indiquer le propre de l'homme, enfin, sa volonté et sa prétention d'indiquer le propre de l'homme, ce qu'elle est la finalité ultime de... Donc il y aurait un noyau de nature dans l'histoire. C'est ça la...
Oui, non, je... Non, je ne crois pas revenir à une philosophie de l'histoire. Je crois qu'il y a une découverte d'une possibilité humaine, découverte de la cité, donc gouvernement par la délibération, et qui est une sorte d'acquisition pour toujours, et qui trouvera des différentes variations dans la suite. Mais effectivement... je dirais, tant qu'il y a des cités et des empires, on reste dans les limites de ce que l'on peut appeler l'ordre naturel. L'ordre naturel. D'une certaine façon, j'en dirai un peu plus, à peine plus demain, d'une certaine façon, l'humanité aurait dû en rester là. C'est-à-dire... vivre dans des cités qui, parfois, donnent lieu à des empires ou deviennent des empires. Les cités grecques, l'empire d'Alexandre, l'empire romain. Et le développement ultérieur ensuite, en effet, me paraît extrêmement mystérieux. Et il est essentiellement lié, je crois, à cette chose imprévue par Aristote, comme le dit Marcide de Padoue, qu'Aristote ne pouvait pas prévoir et qui est, disons rapidement, le christianisme. Donc, la suite de l'histoire, mais est-ce que ça ne suffit pas pour que cette présentation puisse être dite une philosophie de l'histoire? Je crois que la suite de l'histoire est liée essentiellement au christianisme et au contre-coup de l'irruption du christianisme. La forme de nation, par exemple, étant, je crois, dans ce qu'elle a de plus achevé, étant inséparable du christianisme, dont il faudrait ici préciser la relation avec, évidemment, le judaïsme. Voilà. À une question difficile, je donne une réponse simple et franche, parce que j'admets que c'est une proposition qui peut paraître exorbitante. Et j'ajoute juste aux questions précédentes, philosophie, sociologie, je pense à ces formules si étonnantes de Rousseau, où il dit, n'est-ce pas, il y a des situations humaines où les uns ne peuvent être véritablement libres, que les autres ne soient absolument esclaves. Et il dit, pour vous, peuple moderne, vous n'avez plus d'esclaves, mais vous l'êtes. Et d'une certaine façon, ces passages que l'on peut prendre comme... polémique flamboyante de Rousseau contre les modernes au nom des anciens, on peut y lire d'une certaine façon un résumé du passage de la philosophie politique à la sociologie. La cité grecque met en scène la liberté complète, la vie par la délibération de quelques-uns, qui suppose l'esclavage du plus grand nombre, et progressivement, la libération des esclaves signifie la dépendance plus grande des libres à l'égard de l'ensemble social. Mm-hmm. Et en ce sens, Rousseau, dans le second discours et dans, en général, sa critique sociale, nous montre une société qui a perdu ses ressources de liberté et qui est assujettie au résultat d'une histoire politique qui désormais est paralysée et la matière sociale est devenue visqueuse d'une certaine façon et tend à se pétrifier dans une inégalité qui n'a même plus de sens politique parce que ça n'est plus la supériorité de ceux qui se gouvernent eux-mêmes, c'est la domination de ceux qui sont dominés par leur propre domination et chacun est esclave du social. Donc je crois qu'on pourrait trouver dans Rousseau aussi, parce que lui aussi a été placé par Durkheim parmi les précurseurs de la sociologie, on pourrait trouver dans Rousseau aussi, d'une manière extrêmement abrupte, mais la mise en scène du passage, à la fois du point de vue philosophique au point de vue sociologique, et surtout, historiquement, du passage d'une société qui se comprend directement par la philosophie politique à une société qui réclame d'une certaine façon la sociologie.
Très bien. Nous avons respecté le temps. Nous pouvons donc désormais nous reposer un petit peu dans une pause qui aura lieu.